7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les jeunes et les femmes dans la contestation en Algérie. Le mouvement entre dans sa 7e semaine avec un nouveau gouvernement et une proposition de l'armée de déclarer le président Bouteflika inapte. Toujours pas validé d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Qu'est-ce qui porte cette jeunesse? On la décrivait depuis longtemps infantilisée par un pouvoir vieillissant. On la décrivait aussi très peu politisée, habitant majoritairement chez ses parents, célibataire, sans boulot, coincé entre ses rêves de départ, ses pesanteurs sociales et puis une forme d'ennui que certains jeunes trompent dans des volutes de fumée. Alors, y a-t-il un réveil propre à la jeunesse? Une jeunesse qui a pu accéder massivement ces dernières années aux études supérieures gratuites, sans pour autant trouver de débouchés professionnels? Et qu'en est-il aussi des jeunes femmes? Quels sont leurs itinéraires vers la rue et la contestation? Et sur quoi cela peut déboucher? Nous allons en discuter avec nos invités. Dans le studio, Akram Belkaïd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, vous êtes aussi chroniqueur au quotidien d'Oran, collaborateur du site Orient 21. Vous avez publié L'Algérie, un pays empêché aux éditions Talendier. Avec nous également dans le studio, Jean-Baptiste Meyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-économiste au Centre Population et Développement, le CEPED, et chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Et vous enseignez aussi à Alger, à l'École Nationale Supérieure de Management, qui est une grande école de commerce en Algérie. Nous sommes également en ligne à Alger avec Ralia Djelloul. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une jeune sociologue au centre interdisciplinaire, ne le prenez pas mal, hein, mais vous avez 33 ans, hein, au centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain à l'université Louvain en Belgique. Vous travaillez notamment sur la mobilité des femmes. Et puis bien sûr, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur notre numéro de téléphone WhatsApp à nos invités. Vous postez un message avec vos questions, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71.
Oui. 7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
Voilà, c'est un extrait de la chanson Libérer l'Algérie par un collectif de musiciens, mais c'est un foisonnement musical depuis quelques semaines, et bien sûr on en écoutera quelques extraits. Ralia Djelloul, vous avez 33 ans, vous avez quitté l'Algérie pendant la guerre civile, pendant la décennie noire des années 90, vous vivez en Belgique et vous avez participé aux dernières manifestations à Alger. Quelles sont vos impressions, je dirais, à la fois de femme algérienne et sociologue?
Alors écoutez, j'ai pu participer à des manifestations justement en Europe et puis en Algérie, et je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces manifestations du vendredi se placent dans la continuité de la semaine, c'est-à-dire d'une attente qui est habitée par la peur, qui est habitée par l'incertitude permanente avec lequel joue le régime, et qui fait de ce vendredi et de ces marches du vendredi des moments, une sorte de parenthèse enchantée, à la fois parce qu'on se rend compte de l'importance et de la puissance de cette société civile, de sa créativité, de sa lucidité, de sa détermination. Donc, si vous voulez, on se rencontre sur le terrain en rencontrant les autres, en expérimentant ce lien civil avec eux, et bien que cette société existe bel et bien, au-delà des discours qui peuvent être très conflictuels et qui peuvent être très déroutants, qui sont tenus pendant la semaine. Et puis, c'est aussi un moment exceptionnel et parce qu'on expérimente une qualité de l'espace qui est véritablement celle d'un espace public. C'est-à-dire que toutes et tous y ont une place légitime. Il n'y a pas tout le monde y est sur un pied d'égalité, et les femmes particulièrement, y sont à l'aise, y sont tout à fait à leur place. Elles ne sont pas des intruses, elles ne sont pas des indésirables. Elles s'expriment, elles portent haut leur voix, elles font partie de cette société, et ça aussi, c'est quelque chose qui contraste avec leur vie au quotidien et leur la négociation de leur présence dans les espaces du dehors. Mmh. Donc, c'est à la fois un espace public au sens vraiment matériel et au sens de la grande mixité des classes sociales, des générations, etc., qu'on y voit, mais également en termes de qualité des relations qu'on y trouve. Voilà, pour le dire simplement, enfin, pour le dire rapidement.
Alors, vous restez bien sûr en ligne avec nous pendant toute l'émission, Ralia Djelloul. Belkaïd, on peut dire ça des manifestations dans toutes les villes du pays. Est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est finalement une sorte de rituel qui se construit pour les jeunes et une façon de prendre la parole, de s'exprimer qui n'a jamais eu lieu de cette façon-là ?
Il y a effectivement une dimension historique dans ce qui se passe. Parce que, effectivement, comme l'a dit Ralia, c'est à la fois la continuation de protestations qui ont lieu pendant la semaine, partout. Souvent, ce sont des protestations d'ailleurs catégorielles. Genre, c'est les architectes, les médecins, les journalistes, les avocats. Et puis, le vendredi, c'est le peuple qui se rassemble. Il se rassemble effectivement à Alger, mais à Oran, Constantine, et puis dans des petites villes, y compris dans ce qu'on peut appeler l'Algérie profonde, l'Algérie des hauts plateaux. Et l'autre dimension, je dirais, pacifique, c'est à la fois historique, c'est à la fois le nombre, mais aussi le caractère pacifique de ces manifestations. C'est-à-dire que si on regarde l'Algérie au cours des 10 dernières années, il y a toujours eu de la protestation, mais de la protestation sous forme d'émeutes, de contestations violentes, avec des chiffres assez hauts, c'est-à-dire que les chiffres officiels, par exemple, si de souvenir, je cite que, je me souviens qu'en 2014-2015, la gendarmerie nationale évaluait à près de 10 000 le nombre d'émeutes en un an. Alors, mais c'était localisé. Là, on a un mouvement national, toute catégorie d'âge, toute catégorie sociale ou presque, et c'est cela qui donne, je dirais, le caractère « jamais il n'y a eu autant de monde dans les rues de l'Algérie indépendante. Jamais ».
Alors, je le disais en début d'émission, 53% de la population a moins de 30 ans, 45% de la population a moins de 25 ans même. Est-ce qu'on peut parler de réveil de la jeunesse algérienne qui voudrait faire mentir les clichés à son égard qui ont été si nombreux pendant plusieurs années, des clichés et en même temps des réalités, Akram Belkaïd ?
Oui, on peut dire que c'est un réveil, on peut dire aussi que c'est une entrée en politique ou une entrée dans le réel. Il y a deux dates à comparer, 2014 et 2019. 2014, Abdelaziz Bouteflika est candidat à un quatrième mandat et vous avez une partie des intellectuels, des journalistes, de l'opposition qui s'y opposent. Et ils manifestent dans la rue et la jeunesse ne suit pas. Elle est absolument neutre par rapport à ça. Elle s'en désintéresse d'ailleurs. Donc dans les rares manifestants qui étaient dans les rues d'Alger, qui se faisaient bastonner ou embarquer, les gens ne réagissaient pas. 5 ans plus tard, on a une entrée en politique. On a une entrée dans le réel de ce qu'est l'Algérie. L'histoire du cinquième mandat à tout prix, à mon avis, a précipité les choses. Mais aussi, je dirais qu'il a fallu attendre qu'une génération arrive à l'âge adulte pour comprendre que les années 90 étaient loin et qu'on ne pouvait pas continuer à exiger des Algériens qu'ils se taisent au prétexte que la moindre contestation pouvait ramener la violence des années 90. Donc effectivement, je dirais un éveil et une entrée dans le réel, c'est-à-dire la prise de conscience de sa capacité à agir sur les événements. Et c'est ça qui est que le pouvoir n'a absolument pas vu venir.
Mais comment les jeunes qui n'ont pas connu la violence de la décennie noire des années 90 se sont libérés des peurs de leurs parents ? Parce que dans chaque famille, on peut citer un proche assassiné, par exemple.
Oui. Cette émergence de la jeunesse et ce mouvement qui s'est déclenché un peu à la surprise de tous, et notamment du pouvoir, en fait, c'est un peu facile de le dire rétrospectivement, mais il était, non pas prévisible peut-être, mais il y avait des signes avant-coureurs. Il y a eu des enquêtes, telles que justement l'enquête qui s'appelle Sahwa, qui est une enquête qui a été faite dans le monde, dans le Maghreb principalement, et en Algérie de façon très soigneuse par des chercheurs du CREAD, le Centre de Recherche en Économie Appliquée au Développement, qui a montré qu'il y avait en réalité beaucoup de sentiments politiques exprimés par cette jeunesse, mais qui ne débouchaient pas, qui étaient donc un peu sous le couvercle. Il y avait toute une protestation latente qui n'a demandé qu'à s'exprimer, à éclater lorsque les circonstances se sont produites. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a eu l'impression d'une léthargie de la jeunesse. En réalité, c'était plutôt...
Qui était palpable en même temps, visuellement.
Qui était palpable, mais il y avait ces protestations sporadiques. Et puis, il y avait un sentiment de frustration généralisée qui annonçait quand même des événements importants.
Alors, il y a un terme qu'on entend beaucoup depuis quelques semaines, c'est le terme, vous allez nous expliquer exactement ce qu'il signifie, parce qu'on dit beaucoup qu'il est difficile à traduire en français, le terme « hogra ». Est-ce que c'est un sentiment qui est puissant chez les jeunes, Ralia Djelloul?
Oui. Alors, juste, j'aimerais compléter un peu par rapport à ce qui vient de se dire. Justement, sur les manifestations du vendredi, ce qu'il y a de particulier, c'est cette joie expérimentée, partagée, et la confiance et la sécurité qu'on ne retrouve pas, et notamment lorsqu'on voit certains groupes de jeunes qu'on, en tant que, par exemple, en tant que femme, dont on pourrait avoir peur, peut-être, du harcèlement, etc., ben, tout d'un coup, on est dans des espaces où on a complètement confiance et où on prend soin les uns des autres. Et donc, je voulais simplement ajouter ça pour montrer comment est-ce que ces jeunes inventent aussi des nouvelles manières d'être ensemble dans ces espaces du dehors. Et par rapport à ce que
d'être ensemble, c'est-à-dire de réinvente une forme de mixité avec une proximité physique dans ces manifestations entre garçons et filles.
Et ce que je voulais ajouter, moi, dans ces bains de foule, j'ai pas du tout eu peur. Je n'ai pas du tout. J'étais dans un total sentiment de confiance, tant la bienveillance m'entourait, les gens étaient extrêmement attentifs les uns aux autres, et il y a vraiment énormément de stéréotypes et de clichés sur, par exemple, des jeunes paupérisés qui sont là, etc., et qui sont dans l'imaginaire perçus comme des jeunes marginalisés potentiellement hostiles, et qui en fait étaient là pour partager ce lien civil, cette fraternité et cette lutte commune. Donc c'est vraiment des choses qui sont de l'ordre du sensible et qu'il est difficile vraiment de... mais qui est important, je pense, de préciser. Donc c'est des jeunes qui inventent des manières d'être ensemble aussi. C'est pas simplement qu'ils sont jeunes, c'est qu'ils sont inventifs et créatifs. Et de ce point de vue-là, quand vous disiez que c'était une entrée dans le réel, c'est tout à fait juste, et enfin en tout cas une prise de pouvoir sur le réel. Et en même temps, cette entrée dans le réel, elle se fait par l'extension du domaine de l'imaginaire, comme l'a dit comme l'exprimait bien un blogueur. Donc c'est en fait en sortant, moi je pense, d'un enfermement mental dans justement un imaginaire. Vous parlez de hogra, donc d'injustice, mais le terme récurrent, c'était celui du vide. Les jeunes parlaient de vide, ils ressentaient un vide intérieur. Donc si vous voulez, dans les années 90, on parlait de dégoûtage, le dégoût, le désespoir face à la réalité, et il a cédé la place au vide. Voilà, et je pense que de ce vide, vraiment de cet abîme dans lequel que ressentaient ces jeunes, eh bien aujourd'hui c'est vraiment un imaginaire qui se déploie, et c'est ce qui amène cette forme de mobilisation à être tellement joyeuse, tellement festive, tellement artistique, à vraiment valoriser la beauté et la créativité. Et c'est de nouveau, c'est en cela que c'est vraiment des jeunes qui portent ces mobilisations et qui en font, si vous voulez, le cœur actif. Et après, toutes les couches de la société se rejoignent, mais reconnaissent leur énergie et leur dynamisme à ces jeunes et les remercie en fait de les avoir surpris et d'avoir amené ce que d'autres générations n'avaient pas fait jusque-là.
Alors vous parliez de ce sentiment de vide, on a beaucoup dit aussi que cette génération était largement infantilisée en chiffres à Akram Belkaïd et Jean-Baptiste Meyer. Ça veut dire quoi si on regarde le chômage, si on regarde la réalité des chiffres, des jeunes, du sentiment d'avenir bloqué, quelles sont ces réalités là, Akram Belkaïd?
Alors, il y a d'abord des chiffres, des indicateurs économiques, notamment la prégnance du chômage dans ces catégories d'âge. Vous avez les chiffres officiels varient entre 8 et 15%, mais on sait que dans certaines régions, on peut atteindre des taux importants allant jusqu'à au moins 40% de chômage. Vous avez aussi la nécessité pour énormément de diplômés de se rabattre sur le secteur informel et d'avoir donc des petits métiers pour pouvoir subsister. Mais de façon générale, ça vaut aussi pour le discours et l'affichage. C'est-à-dire que l'Algérie, pays jeune, comme vous le dites, avec des dirigeants très âgés, même si dans ce qu'on appelle l'état profond, le renouvellement des élites s'est fait, mais en tous les cas, l'affichage est un président qui a plus de 80, qui va vers 82 ans, si je me souviens bien, chef d'état-major aussi. Et vous avez donc une jeunesse qui est considérée comme négligeable dans le discours, dans les programmes politiques, et qui n'a pas sa place, je dirais, à la table des responsabilités. Et ça, c'est une récurrence de l'Algérie indépendante. C'est-à-dire que pays jeune, population jeune, mais très vite la jeunesse est mise de côté et donc poussée parfois à partir. Il faut dire que, par exemple, un des facteurs dont on parlait tout à l'heure qui ont poussé à la mobilisation, et vous évoquiez la Hogra, il faut savoir que quand un jeune Algérien s'embarque sur une patera pour partir vers l'Europe et que si jamais il est récupéré par les gardes-côtes, il est dans de sales draps, c'est-à-dire qu'il est justiciable, il peut être poursuivi en justice. Parfois, certains ont été battus. Et donc voilà la manière dont cette jeunesse est traitée. Et elle a un rapport, je dirais, conflictuel. Elle a toujours eu un rapport conflictuel avec le pouvoir, avec l'ordre, avec les détenteurs de l'ordre, qui ont toujours considéré, qui sont toujours méfiés de cette jeunesse, la considérant comme étant susceptible de créer des troubles et donc nécessitant une surveillance de près et l'empêchant, par exemple, de participer de près ou de loin à la vie politique.
Ceci dit, le pouvoir a changé un peu de discours vis-à-vis des jeunes ces derniers jours.
Il a intérêt, il a changé beaucoup de choses. Quand on regarde les discours d'Ahmed Gaït Salah, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, soudain, il a découvert le peuple. Il a parlé de l'article 102, et puis dans sa dernière mise au point, il s'est souvenu que la constitution algérienne, c'était les articles 7 et 8 qui établissent, parle clairement de la souveraineté du peuple.
Est-ce que les politiques au pouvoir mentionnent les jeunes spécifiquement dans leur discours, ou pas tellement d'ailleurs, où on retrouve plutôt le mot peuple ?
Alors, il y a des discours qui vont vers la jeunesse. Ce serait injuste aussi de dire qu'il n'y a pas eu des choses de faites, bien entendu. Lorsqu'il y a eu les printemps arabes, le pouvoir a ouvert les vannes des crédits pour que certains jeunes puissent lancer des petites...
La création d'entreprises.
Voilà, oui. Ça s'est fait, enfin... Il y a eu des choses, mais tout cela dans un cadre verrouillé. Et c'est ça qui, avec des passe-droits, avec des gens à qui on a accordé plus d'argent que d'autres, à des gens à qui on accorde de la suppression des crédits et pas d'autres, enfin.
Jean-Baptiste Meyer, qu'est-ce qui se passe dans les campus du côté des étudiants ?
Alors, revenons, si vous le voulez bien, juste une minute sur ces chiffres du chômage et sur cet état d'inactivité de la jeunesse. En Algérie, moins d'un quart des jeunes qui sont au travail, qui ont un emploi. Les autres sont soit étudiants, puisque la population étudiante a crû considérablement, et on va en parler, mais beaucoup d'entre eux sont même carrément en dehors du marché du travail par peur de ne pas en trouver et donc n'en cherchant même plus.
Donc beaucoup, ça veut dire qu'ils font quoi ? Du petit trafic, des petits boulots ?
Oui, ça peut être des emplois au noir également, des petits trafics. Et puis beaucoup de jeunes femmes, car ce sont elles que le chômage et l'inactivité frappent en premier lieu. Eh bien, elles sont chez elles, enfin, dans leur famille, justement. Alors, qui n'est pas chez eux. La plupart des jeunes Algériens, la moitié d'entre eux, n'ont même pas une chambre pour eux.
80% des 15-29 ans vivent chez leurs parents et sont célibataires. Donc il y a un vrai problème quand même d'émancipation par le travail. Et en même temps, on a des jeunes qui sont de plus en plus éduqués, qui sont passés par l'université. Ça ne veut pas forcément dire qualifiés, Jean-Baptiste Meyer.
Alors, il y a une amélioration de la diplomation. L'Algérie est un pays où les diplômes, plus que chez ses voisins du Maghreb, les étudiants suivent le cursus, disons, plus longtemps et plus loin. Et les jeunes femmes, en particulier, sont devenues diplômées. Et elles représentent 60 plus les deux tiers. Mmh. Les deux tiers des diplômés sont des jeunes femmes et elles vont souvent jusqu'au master et parfois maintenant jusqu'au doctorat où elles deviennent également majoritaires. C'est très important, ça modifie et ça explique peut-être cette participation massive de la population féminine dans les protestations, les manifestations, la prise de conscience. C'est elles sortent de chez elles pour étudier, elles se forment et elles espèrent, bien sûr, déboucher sur des emplois après.
Mais comment expliquer qu'on ait des jeunes de plus en plus éduqués, de plus en plus diplômés et pas de travail alors qu'il y a un milieu des affaires avec beaucoup d'argent ?
Alors, c'est une très bonne question et ça nous ramène à la nature de l'économie algérienne, qui est une économie rentière, c'est-à-dire que l'essentiel des richesses algériennes sont créées par le fait d'exporter du pétrole et du gaz naturel. C'est une activité qui n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et l'incapacité des différents pouvoirs qui se sont succédés, des différents gouvernements, à diversifier l'économie, c'est-à-dire à la libérer, à faire en sorte que les gens puissent créer leurs entreprises, qu'ils puissent créer de l'activité, Et le principal résultat, c'est le chômage de cette jeunesse. Le grand problème, on m'a beaucoup demandé pourquoi j'avais utilisé le titre de l'Algérie pays empêché. C'est cela, c'est le fait que vous avez un pays qui a un gros potentiel, mais où faire quelque chose s'avère très difficile, surtout pour les jeunes. C'est-à-dire que vous avez une économie rentière, vous avez des oligarques, je mets ce terme entre guillemets, qui vivent à l'ombre de l'État, qui parasitent les contrats d'État parce qu'ils ont de très bonnes relations avec le pouvoir.
Et ailleurs. Et qui vivent sur une économie d'importation, en fait.
Et qui vivent sur. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des usines, au lieu d'avoir des usines, ils préfèrent importer, puisque les vannes du commerce extérieur ont été ouvertes. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des salariés. On a juste besoin d'un fax et d'importer des containers. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, parce que la jeunesse, elle, demande à travailler.
Alors, vous parliez de l'Algérie, ce pays empêché, d'autant plus empêché qu'elle est super connectée. On a 19 millions de personnes qui sont connectées sur un pays de 42 millions, 60 millions de smartphones, 100 millions de cartes SIM. Et donc, évidemment, et vous le disiez, le nombre d'étudiants aussi qui a été multiplié par plus de 4 ces 20 dernières années. Et puis, au cœur de tout ça aussi, de ce mouvement de contestation, il y a la musique des jeunes. On écoute Soul King, qui est une star en Algérie. Sa chanson a été reprise dans les rues, a dépassé les 36 millions de vues sur YouTube.
Paraît que le pouvoir s'achète.
Liberté, Soul King, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Nous parlons de la contestation en Algérie, très largement menée par les jeunes. 53% de la population a moins de 30 ans. Beaucoup de jeunes femmes aussi. Nous en discutions avec nos invités, Akram Belkaïd, Jean-Baptiste Meyer, Ralia Djelloul, qui est sociologue et qui est à Alger depuis quelques semaines, donc qui est au téléphone avec nous. Alors, on en a dit un mot des femmes, mais bien évidemment, aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes garçons sont unis dans une contestation très uniforme, qu'ils partent tous, hein, ce sont les slogans que l'on retrouve notamment depuis qu'il y a eu la main tendue de l'armée qui évoque la possibilité que le président Bouteflika puisse être déclaré inapte. Ça ne suffit pas, hein, puisque la rue a largement répondu qu'ils partent tous, et pas seulement le président Bouteflika. Mais aujourd'hui, la question se pose tout de même. Alors, vous l'avez dit, Ralia Djelloul, les femmes, elles ont eu peur au démarrage de descendre dans la rue, aussi pour des raisons historiques. Elles sont finalement descendues dans la rue. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence durable des intérêts entre les garçons et les filles?
Alors, de toute façon, si vous voulez reprendre le pouvoir sur la réalité, comme le disait Akram Belkaïd, ou en tout cas revendiquer un autre monde possible, un autre monde des possibles, ici, en Algérie, et non pas qui se concrétiserait en partant, en quittant l'Algérie, ça, c'est une convergence de toute cette génération de toute la société, disons, civile, mais aussi de toute cette génération qui veut construire sa vie ici dans le cadre d'un état de droit et ne plus subir cette chape de plomb, ce joug autoritaire et ce système clientéliste, etc., etc., tous les problèmes qu'il génère. Maintenant, il y a des questions qui sont spécifiques qui relèvent des rapports de genre et où hommes et femmes ont des intérêts qui ne sont pas forcément ou même pas du tout convergents. Parce que les uns ont des privilèges vis-à-vis d'autres qui sont discriminés par la loi. C'est le cas du code de la famille. Et puis, il y a toute une économie domestique, toute une sphère domestique qui fonctionne grâce au travail des femmes. Et vous avez dit que les femmes avaient peur de sortir. Elles sont retenues aussi à l'intérieur par des familles qui n'ont pas seulement peur pour elles physiquement en vue de risque d'agression, mais il y a tout un enjeu moral derrière le fait que les femmes quittent l'espace domestique. Et donc, il y a tout un capital symbolique de la famille, la réputation de la famille qu'elle se doit de maintenir, et elle se maintient via le comportement des femmes à l'extérieur, et donc notamment le fait de les dissuader de quitter les espaces domestiques. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux spécifiques qui portent sur le corps des femmes, sur leur présence ou pas à l'extérieur. Et là, ce n'est pas les mêmes enjeux pour les filles et les garçons.
Bien sûr. Alors justement, nous venons d'avoir en ligne Nadia Aïdzaï, que je n'ai pas osé vous annoncer au début de l'émission parce qu'on n'avait plus de ses nouvelles, avocate algérienne, militante des droits humains. Bonjour Madame Aïdzaï.
Oui, bonjour.
Vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université, et donc je sais que vous êtes en cours en ce moment, donc on ne va pas vous mobiliser trop longtemps, mais vous militez depuis des années pour les droits des femmes. J'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui, est-ce que cette convergence des luttes entre les garçons et les filles, puisqu'on parle des jeunes et des femmes aujourd'hui dans cette émission, en Algérie, est-ce qu'elle peut perdurer, cette convergence des luttes, quand on sait que les femmes attendent depuis longtemps maintenant une vraie réforme du code de la famille, notamment?
Alors, je pense que sur le plan politique, elle peut converger parce qu'il y a une demande principale qui est celle de dire aujourd'hui ce personnel politique doit partir. À ce niveau-là, il y a une convergence vraiment d'idées. Mais je pense que lorsque l'on arrive aux spécificités, lorsque l'on va demander des droits des femmes, spécificités, qui est celle de dire révision du code de la famille, égalité en droit, et non pas devant la loi, là, les vieux réflexes, les préjugés, les comportements conservateurs réapparaissent. Et on l'a vu d'ailleurs à la sortie de vendredi, où le carré féministe a été agressé, parce que les mots d'ordre du carré féministe gênaient des jeunes, qui était là pour cette demande principale. Mais cette demande principale ne peut pas non plus cacher les demandes de toutes les composantes de la société, parce qu'elles sont toutes sorties et toutes ont demandé des droits.
Quelles étaient spécifiquement
les femmes, parce que nous risquons de les perdre.
Bien sûr. Quelles étaient spécifiquement, là, ce vendredi, les demandes du carré féministe?
Eh bien, c'était l'égalité, la consécration et l'effectivité de l'égalité, la révision du code de la famille, qui demeure le socle de la discrimination.
Notamment sur la nécessité
des jeunes femmes. Hein,
notamment sur la nécessité, juste précisons pour nos auditeurs, hein, dans ce code de la famille, il y a toujours le wali, hein, la nécessité d'avoir un tuteur.
Ah, voilà, c'est l'incapacité, voilà,
pour se marier, notamment.
Juridique de la femme majeure à conclure son contrat de mariage toute seule, et la difficulté pour elle de divorcer, l'autorité parentale n'est pas partagée. Donc il y a, même s'il y a eu des amendements où on a introduit l'égalité, le socle demeure encore discriminatoire de ce texte.
Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle, Madame Aïdzaï, des discussions dans les familles pour faire rentrer les filles à la maison au moment des manifestations, ou pas du tout?
Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas qu'il y ait des discussions. Bon, il y a eu ici et là, sur Facebook, dans les journaux, où quelques personnes demandent aux familles de garder leur fille à la maison. Comment côtoie-t-elle un garçon? Comment danse-t-elle dans la rue? Comment se fait-il qu'elle est là et qu'elle sort? Donc ça, oui, mais je pense que c'est par rapport rapport à la demande générale où tout le monde, femmes et hommes, sont sortis.
En tout cas, effectivement, c'est une vraie révolution pour certaines familles et pour certaines jeunes filles.
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, de nous avoir accordé quelques minutes. Nadia Itzaï, avocate algérienne, militante des droits humains. On vous laisse retourner en cours à l'université. Ralia Djelloul et Jean-Baptiste Meyer Akram Belkaïd ont parlé des droits des femmes, mais il y a aussi la question des places. On disait qu'il n'y a pas assez d'emplois à l'heure actuelle. Il y a un fort plafond de verre pour les femmes. On a 2/3 de filles dans les universités, elles réussissent mieux aux examens. On a 30% des femmes qui travaillent ont un diplôme universitaire contre 6% des hommes. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même là de l'injustice à l'heure actuelle pour les femmes qui sont en même temps beaucoup plus au chômage. Très peu de femmes actives alors qu'elles sont beaucoup plus diplômées. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir une revendication pour les places et pas seulement les droits, vous pensez, Akram Belkaïd?
Oui, et c'est d'ailleurs une tendance qui est très répandue dans de nombreux pays arabes. Vous retrouvez pratiquement la même situation en Tunisie, ou voire même dans certains pays du Golfe, par exemple, où les jeunes femmes font des études, ont des diplômes, plus que le frère ou le cousin, mais il y a une inégalité à l'accès au travail. Donc oui, effectivement, mais... Encore une fois, ça a été très bien dit, on est dans une situation où on a une revendication générale qui est celle que ce régime s'en aille, ou du moins qu'il soit profondément remanié. Et d'un autre côté, ça ne peut pas faire oublier, je dirais, les contradictions et les paradoxes de la société algérienne. Il y a la question des femmes, bien entendu. On parle beaucoup des marches, par exemple, en ce moment à Alger. Alors, il se trouve que je suis assez âgé aujourd'hui, mais moi, mes souvenirs, je crois que mon premier souvenir d'une marche de contestation à Alger à laquelle j'ai assisté, c'est 1984 contre le Code de la famille. Un peu plus tard, l'une des grandes marches où il y a eu énormément de monde dans les rues d'Alger, c'était à l'occasion du 8 mars. Donc vous voyez, on est toujours dans cette problématique et les mentalités ont peut-être évolué, mais il y a aussi, je dirais, une grosse responsabilité à la fois du personnel politique, mais aussi des intellectuels algériens, sur la nécessité de porter le discours féministe et de le porter de manière intelligente et in situ. Et ça, c'est quelque chose que les événements de ces dernières années, et notamment des années 90, ont peut-être fait obstacle à cette démarche. Mais il est temps, il va être très vite temps de remettre la question du statut des femmes sur la table.
Mais ça sera compliqué dans une économie qui est bloquée, où le chômage est tellement élevé, où les garçons et les filles peuvent se retrouver dos à dos, Jean-Baptiste Meyer.
Oui, c'est compliqué. Il y a des facteurs discriminatoires qui séparent l'accès des femmes et des hommes au marché du travail, mais il y a aussi une structure de ce marché. Voyez, par exemple, dans le monde universitaire, la part des femmes s'accroît, et elle s'accroît vite, et elle s'accroît aussi dans la pyramide hiérarchique. Les femmes prennent de plus en plus de responsabilités universitaires, académiques. Elles n'en sont pas empêchées par leurs collègues masculins dans la plupart des cas. Par contre, on voit que c'est des emplois formels, des emplois qui sont souples, qui permettent une vie de famille, qui permettent l'éducation des enfants.
Et dans le service public. Et dans le service public.
Et dans le service public, de façon salariée, avec une sécurité. Et là, on revient peut-être à la question de la peur qu'on évoquait tout à l'heure, celle d'un espace qui serait encore fragmenté, compartimenté, et où les femmes n'auraient pas les mêmes chances que les hommes encore. Et là-dessus, je crois que la société algérienne évolue, elle évolue pas forcément de façon linéaire. Il y a des avancées et des reculs. On a vu dans la manif de vendredi cette réaction négative vis-à-vis du carré féministe, ultra négative. Et en revanche, comme Ralia le mentionnait tout à l'heure, cette unité dans la plupart des autres manifestations. Donc, il y a vraiment des paradoxes et des tiraillements dans cette société.
Alors, il y a une rappeuse qui cartonne ces dernières semaines, c'est Raja Mezian. Sa vidéo mise en ligne sur YouTube a des millions de vues. Elle, sur son clip, elle porte un jean, des baskets, capuche rabattue sur la tête avec une casquette. Sa chanson ne manque pas d'humour. Allô, le système ? Point d'interrogation. نادو زوا ولا خرج ولاد الشعب وخرج محمول الطابلة خزينة أبلا البلاد راها عاطلة الموس قبل عدم وطالت بينا طايلة ضربتو التعليم Raja Béziane, Allô le système, vous la connaissez, Raya Melloul?
Oui, mais bien sûr, je l'ai écoutée et elle représente bien la manière dont aujourd'hui la société civile, mais aussi les femmes, prennent la parole et interpellent directement ce régime qui jusque-là faisait dans le monologue. Ouais. Et donc aujourd'hui, on l'interpelle et on lui dit qu'il faut qu'il rende des comptes et qu'il est temps que ça s'arrête. Ça amorce alors c'est pas encore un dialogue, ça reste encore un peu un dialogue de sourds, mais néanmoins. Voilà, toutes les semaines, on a la rue qui répond aux différentes déclarations. Il y a vraiment une nouvelle dynamique dans ce rapport société civile et régime qui s'est enclenchée et les femmes en font partie.
Et avec beaucoup d'humour, il faut le dire aussi. Raya Djelloul, c'est que on a vu beaucoup de slogans. Alors l'humour, c'est pas nouveau en Algérie, mais on a vu beaucoup de slogans très qui témoignent aussi de la jeunesse des manifestants, qui reprennent des slogans publicitaires. Vous êtes mal barré, votre système nuit gravement à la santé. Hein. Quand le cinquième mandat était encore d'actualité, on a vu aussi votre système 5.0 a besoin d'être rebooté. Également, le 8 mars, on a vu Black Friday, 100% de remise immédiate, le peuple solde, un cadre. Bon, l'allusion au fameux portrait du président, plus des ministres incapables, sans garantie. Et puis aussi, on a vu, nous ne voulons ni du cadre, ni des clous qui le fixent. Toujours les références aux cérémonies autour du portrait du président qui a cristallisé l'exaspération des jeunes. Ou encore, chers États-Unis, il n'y a plus de pétrole ici, donc tenez-vous à distance, à moins que vous ne recherchiez de l'huile d'olive. Je ne sais pas, il y en a d'autres aussi qui vous ont séduit, vous les uns et les autres, Akram Belkaïd.
Celle de ce matin, j'ai vu le portrait du patron des patrons qui a donc été arrêté alors qu'il essayait de partir en Tunisie, donc un proche de l'entourage présidentiel. Et il y a eu cette phrase, c'est le premier Haraga depuis, donc le premier à essayer de quitter clandestinement le pays depuis le 22 février dernier. J'ai trouvé ça intéressant aussi.
Ouais, sous-entendu, depuis le 22 février.
Depuis la première marche.
Tout se joue ici, bien
voilà,
sûr.
Voilà, on reste.
Ouais. Jean-Baptiste Meyer, vous, les étudiants que vous côtoyez...
Moi, j'ai bien aimé celui de, je crois que c'était Dilem, qui montrait notre président regardant de l'autre côté de la Méditerranée et trouvant que les manifestations étaient plus agréables là-bas qu'ici.
Alors, la question se pose aujourd'hui, sur quoi ça peut déboucher tout cela, cette mobilisation incroyable de la jeunesse? Le pouvoir fait tout pour gagner du temps, table sur un essoufflement du mouvement. Est-ce que les jeunes peuvent se lasser ou est-ce qu'il existe en réalité un terreau, des organisations, des associations de jeunes qui sont structurées depuis de longues dates et qui pourraient prendre le relais de cet élan réseaux sociaux. Comment vous voyez les choses, Akram Belkaïd?
Alors, effectivement, vous parliez de l'humour, de cette créativité, de cet entrain, de cette libération d'énergie et de talent. Toute comparaison gardée, on a assisté à la même chose en 2011 en Tunisie et en Égypte, par exemple, où, si je prends le cas des Égyptiens, ils ont rivalisé d'inventivité pour signifier à Moubarak, au président de l'époque, de partir. Alors le problème ensuite, c'est comment on fait pour que toute cette dynamique, pour toute cette inventivité se transforme et s'organise autour de plateformes politiques, de réflexions politiques. Alors il existe ce qu'on appelle des phénomènes de politisation rapide, hein, il suffit d'un événement, on l'a vu en France en 2005 où les gens se sont emparés de la question du référendum, enfin du texte sur la Constitution. Donc il y a des partis politiques qui aujourd'hui sont en train de réfléchir, proposent des plateformes, on sent qu'il y a des initiatives ici et là. Tout ça est en naissance. Des associations, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il faut bien comprendre que tout cela intervient dans un cadre où justement ce régime très contesté a toujours considéré qu'il fallait empêcher l'organisation de la société civile, l'a toujours combattu, l'a toujours noyauté, l'a toujours divisé. On disait souvent en Algérie que deux personnes ensemble pour le pouvoir, ça va. Dès qu'il y en a trois, il faut intervenir.
En même temps, la loi algérienne autorise... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation préalable pour ouvrir nos associations. Il suffit de la déclarer.
Il suffit de la déclarer. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Et puis ensuite, dès lors que vous êtes une association, certes, mais ensuite, si vous avez besoin d'une salle pour vous réunir, ça, c'est là où les ennuis commencent. Et puis vous allez avoir de la contestation interne. Puis vous allez avoir des enquêtes sur vos finances. Beaucoup de gens l'ont éprouvé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, les textes, comme la Constitution, qui est une... Et puis, il y a la réalité.
Et les syndicats étudiants dans les campus? Est-ce que traditionnellement, ils ont été noyautés par des organisations pro-pouvoir? Ou est-ce qu'il peut naître une autre contestation étudiante à l'heure actuelle?
C'est ce qui arrive en ce moment. C'est les réseaux sociaux qui sont les principaux ferments de coagulation des revendications étudiantes. Et ça, c'est intéressant, effectivement. Il y a ce tissu associatif très fragmentaire. Il était inopérant pour l'Algérie avant de déboucher, avant qu'il n'y ait ces mouvements récents. Et on ne peut pas dire que ce soit un désintérêt politique de la jeunesse, parce que beaucoup d'entre eux étaient, par exemple, inscrits sur des listes électorales et ils ne votaient pas, malgré tout. Non pas parce qu'ils avaient un dépit mortel de la politique en soi, mais parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies pour que leur vote soit pèse dans les choix politiques. Donc, ils étaient pas si loin que ça de la politique, mais ils ne voulaient pas exprimer leurs avis. Le tissu associatif, il était très lacunaire, très fragmentaire. Les principales associations, c'était celles des sportifs, par exemple, chez les jeunes. Et au-delà de ça, très peu de structuration d'une opinion publique, finalement. Et comme le disait Akram Belkaïd tout de suite, c'est maintenant qu'on est un peu à la croisée des chemins. Cette expression populaire spontanée, vigoureuse, dynamique, énergique, elle a certainement besoin de se traduire dans quelque chose qui permette de transformer l'essai, ce que n'ont pas pu faire les printemps arabes d'ailleurs, et qu'il faut maintenant construire.
Ralia Djelloul, justement, comment vous voyez la suite des événements? Comment cette jeunesse peut continuer de rester sur le devant de la scène, et notamment les femmes?
Bah écoutez, moi je pense qu'on est vraiment qu'au tout début de ce processus et que c'est pas, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de paroles qui a besoin d'être libérées, d'être légitimées. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir sans doute, voilà, oui, des représentants, des figures qui émergent, mais pour le moment, on n'en est pas encore là, puisque le régime est encore en place, la transition est tout à fait encore incertaine, il manque des gages, il manque des mécanismes qui garantissent la transparence, etc., des prochaines échéances. Donc moi, je crois que c'est un processus sur le long cours, et qu'en fait, Amazur Kate parlait de l'impossibilité de stagner sur le plan constitutionnel. En tout cas, cette mise en mouvement, voilà, qui a été rendue possible, je crois qu'elle a besoin encore de continuer. Il ne faut pas stabiliser ou fixer les choses. Je crois que la société civile va continuer de s'étendre, d'étendre son domaine du possible. L'occupation des rues, des espaces, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et qui ne devrait pas s'arrêter. Il ne faut pas tenter d'enfermer, voilà, ce mouvement dans des salles, à travers des représentants. Je crois que les Algériens et les Algériennes ont été trop longtemps enfermés à la fois dans leur tête et privés d'espace public. Et maintenant qu'ils se réapproprient, ils n'ont pas envie de se refixer à travers des institutions qui les priveraient de cette liberté de parole si, enfin voilà, très, très difficile à obtenir par ailleurs. Donc moi, j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de temps, bien que il y ait des énergies, des compétences pour gérer une transition. Enfin, il y a clairement des figures qui émergent, mais les gens ont soif de s'exprimer. Que ce soit à travers des pétitions, que ce soit à travers des comités, beaucoup de personnes s'organisent au niveau des universités, au niveau des quartiers, au niveau... Il y a plein d'initiatives...
Ça veut dire qu'il n'y a pas... Ralia Djelloul, pardonnez-moi.
Plus large écho. Donc tout est à faire, c'est un immense chantier en fait. Donc moi je ne vois pas du tout, je vois pas une prochaine échéance, c'est pas d'ici 3 mois, c'est pas d'ici une année, c'est vraiment juste un espace public qui s'ouvre et une jeunesse qui a soif de s'exprimer et de participer.
Akram Belkaïd, une élection présidentielle dans les 3 mois, les jeunes clairement, bien qu'on pourrait leur attribuer une forme d'impatience propre à leur génération, ils n'en veulent pas. Par peur d'un scrutin truqué?
Le piège, c'est d'ailleurs le piège de la proposition faite par le chef d'état-major, de dire on déclenche l'article 102 et puis on a une transition, et si on suit cette transition prévue par la Constitution, on a grosso modo des élections présidentielles d'ici l'été, voire le début de l'automne. Ça, les gens n'en veulent pas, ils ont bien compris. Ils ont bien compris que si c'est pour faire une élection dans 3 mois ou 4 mois, c'est donner la possibilité au système de trouver un nouveau candidat, de faire croire au changement et de dire, voilà, on continue comme... ça y est, on vous a entendu, les Bouteflika sont partis, vous avez un nouveau président, rentrez chez vous. Non, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faut une transition longue, organisée, mais une transition qui permette à toutes les forces potentiel de d'abord de s'agréger, de s'exprimer, de permettre aux gens de prendre conscience des grands défis, parce que souvent sur la question de l'Algérie, parce que ces dernières années, on a aussi vécu en Algérie dans pas un mensonge, mais on a un peu vécu en dehors du réel. Il y a des décisions fondamentales à prendre dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan écologique.
Vous n'avez pas mentionné depuis le début de l'émission, j'en suis surprise, Akram Belkaïd, les organisations islamistes. Est-ce qu'elles sont crédibles auprès des jeunes dans ce mouvement ou pas ?
Alors c'est très difficile, c'est une question... une partie de la société algérienne ne pardonnera jamais aux islamistes de l'ex-FI ce qui s'est passé dans les années 90. En même temps, vous avez aussi... c'est une des composantes de la société algérienne.
Et qui joue un rôle social, notamment dans les quartiers.
Et puis qui est là, qui est présente. Et je pense que ce serait se mentir en disant que ces gens-là ont disparu et que demain, si demain les choses se libèrent, un nouveau parti islamiste ne fera pas, je ne dis pas qu'il aura le même élan que ce qu'il y a... On a connu dans les années 90, mais c'est une des composantes de la société algérienne. La nier serait faire, à mon avis, une grave erreur.
Jean-Baptiste Meyer.
Tout à fait. La société algérienne est très islamisée, beaucoup de gens pratiquent, des jeunes, des femmes, bien sûr, des hommes aussi. C'est-à-dire, la religion est très présente. Pour autant, ce n'est pas une expression politique de cette religion. C'est la société civile qui est imprégnée de religion et pas nécessairement le système politique. Et visiblement, les islamistes n'ont pas beaucoup de poids en ce moment, en tout cas dans les mouvements qui se manifestent.
Voilà, alors bien sûr, tout cela est à suivre. Merci à vous tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous Jean-Baptiste Meyer, Akram Belkaïd. Merci à vous Ralia Djelloul en direct d'Alger. Merci à Nadia Itzaï et à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianos, Romain Dubrac. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en podcast ou sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émission. Et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la vie quotidienne en Corée du Nord. Un documentariste s'est intéressé aux loisirs dans ce pays privé de liberté. Voilà, merci à vous les voisins et les voisines. Très bonne journée sur RFI. On se dit à demain, même heure, même endroit.